Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. La Russie, de plus en plus isolée après les dernières menaces de Vladimir Poutine concernant les armes nucléaires. Des centaines de Russes tentent de fuir pour échapper à l'enrôlement pour aller combattre en Ukraine. On verra que le chef de l'ONU demande à ce que l'on enquête sur le catalogue des cruautés commises lors de cette guerre. On entendra aussi la réaction des Ukrainiens. Que faire face à la surenchère de Vladimir Poutine ? Il faut tenir nos positions, affirme Emmanuel Macron. On entendra aussi Henri Guénot affirmer que personne ne sait où le conflit peut s'arrêter. Il s'alarme aussi du fait qu'aucune solution négociée n'est envisagée pour l'instant. On va en débattre dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. On ne peut pas laisser Poutine s'en tirer, déclaration du secrétaire d'État américain à l'ONU, Anthony Blinken, s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'Ukraine. En présence de la Russie, le chef de la diplomatie américaine dénonce le fait que la Russie avait mis en pièces l'ordre international. L'Allemagne, de son côté, se dit prête à accueillir des déserteurs de l'armée russe menacés de graves répressions. C'est ce qu'a dit la ministre allemande de l'Intérieur. Au lendemain de l'annonce de mobilisation de réservistes russes pour combattre en Ukraine, les Russes tentent de fuir pour certains d'entre eux par la route leur pays en passant par la frontière russo-géorgienne. La Turquie aussi pourrait ne plus accepter les cartes de crédit russes. Pour l'instant, Ankara n'applique pas les sanctions occidentales contre la Russie, mais cela pourrait changer. Elle va trancher sur une éventuelle suspension du système russe de paiement MIR. C'est ce qu'a annoncé le président turc Erdogan. En France, nous allons massivement accroître nos besoins en électricité de 40% d'ici 2050. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de l'inauguration du premier parc éolien en mer de France. La France aura besoin d'aller deux fois plus vite sur les projets d'énergie renouvelable. C'est ce qu'il a dit à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. On l'écoute.
Nous avons besoin de réduire clairement les délais, mais on a besoin de remettre ce projet dans la perspective du moment. Et c'est en quelques mots ce que je voulais faire avec vous. Jour heureux, jour glorieux. Nous avons ce champ d'éoliennes qui est là et voit le jour, mais tout ça arrive dans un temps compliqué et prend encore trop de temps.
Le meurtrier de Julien Videlaine est condamné à 20 ans de prison. Le verdict est tombé en début d'après-midi. L'avocat général lui avait requis 30 ans de réclusion criminelle. Muhitin Ulug avait tué en 2014 le petit ami de sa fille. Aminata Diallo sort de prison. Elle était placée sous contrôle judiciaire. La footballeuse, suspectée d'être la commanditaire de l'agression de Keira Amraoui, sa coéquipière, a été mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. On écoute son avocat.
La réalité de ce dossier, c'est que pour l'instant, on a une exploitation du téléphone qui a été faite, à notre sens, très à charge. Pour ne pas dire exclusivement à charge, c'est-à-dire qu'il a fallu fouiller beaucoup avant de trouver les messages d'amitié qui ont été envoyés entre Keira Amraoui et Aminata Diallo. Et pourtant, des messages d'amitié, il y en a. Et il n'y en a pas un petit peu, il y en a beaucoup.
Voilà, et puis en Iran, au moins 31 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations il y a 6 jours. Ils protestent, ces manifestants, contre la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. Les responsables iraniens nient toute implication des forces de sécurité dans la mort de ces manifestants. Voilà, il est 18h02, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes avec nos invités pour évoquer la situation, évidemment, en Ukraine, avec la Russie. Eric Nolot est avec nous, journaliste. Bonsoir, mon cher Eric.
Bonsoir, Laurence.
Sergueï Girnov est présent, ancien espion du KGB. Bonsoir à vous, merci Bonsoir. D'être avec nous. Le général Bruno Clermont aussi nous a rejoint. Bonsoir, général Bonsoir. De corps aérien. Et Éric Revel, journaliste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Merci d'être resté avec nous. On va commencer par les Français et la menace de l'arme nucléaire russe. Un sondage CSA pour CNews nous donne une réponse éloquente. Avez-vous peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien? Votre réponse, oui à 63%, non 37%. Il y a une inquiétude massive des Français face à cette, évidemment, menace non voilée du président russe. On va écouter les réactions de quelques-uns d'entre vous recueillis par nos équipes.
Je regarde ça d'assez loin, j'avoue, mais moi, si ça commence à continuer comme ça, ça va commencer à me faire un peu peur, en effet. Ouais.
Ça, non, pas du tout. C'est du blabla diplomatique, comme pendant la guerre froide. Et pour l'instant, ça ne m'inquiète pas plus que ça.
Ça nous inquiète, oui. La menace, oui, nous inquiète. Mais bon, Poutine, il peut nous menacer, mais il fera toujours marche arrière après.
pour nos enfants peut-être l'avenir, mais pour le moment on reste confiant.
Voilà, des Français stoïques mais néanmoins inquiets. Ça vous intéresse, ça vous interpelle, général Clermont, ou pas?
Je pense que c'est naturel qu'ils soient inquiets, parce que la menace est brandie fréquemment, Vladimir Poutine, et puis c'est pas facile de comprendre comment fonctionne la dissuasion nucléaire, l'arme nucléaire. Mm-hmm. C'est une chose un peu compliquée, je vais peut-être essayer de simplifier, mais en ce qui me concerne, je pense que concernant la France, le risque est très faible, et concernant l'OTAN, le risque est très faible. On est toujours dans un dialogue très étrange, mm-hmm. qui s'est produit déjà une dizaine de fois depuis Hiroshima et Nagasaki, hein, qui est un dialogue stratégique dans lequel les menaces sont là pour faire reculer l'adversaire, mais ne sont jamais mises à exécution. On l'a connu pendant la guerre de Corée, on l'a connu en Indochine à Dien Bien Phu, on l'a connu pendant la crise de Suez, entre l'Inde et le Pakistan. Il y a différents exemples entre la Russie et la Chine. Donc jusqu'à présent, le bon sens des dirigeants a toujours reculé pour trouver une solution négociée et éviter l'usage de l'arme nucléaire. Le cas de la Russie, toutefois, en ce qui me concerne, est particulier. Mm-hmm. Voilà, c'est ça la différence, c'est que à la fois en raison du régime de Poutine, également de la doctrine militaire russe, il y a peut-être plus d'inquiétudes à avoir que dans les cas précédents.
Sergueï Zhirnov, vous connaissez bien évidemment l'appareil d'État russe, vous êtes un ancien du KGB. Vladimir Poutine dit « je ne bluffe pas quand je vous dis qu'on a des armes qui peuvent faire mal ». Vous le croyez ?
En général, en psychologie, quand quelqu'un qui vous dit « je ne bluffe pas », c'est qu'il est en train de bluffer. D'accord. Donc ça peut me rassurer. Mais bon, avec Vladimir Poutine, on a du mal quand même à faire des blagues. Parce qu'il a ramené cette histoire d'armes nucléaires quasiment au troisième jour du conflit ukrainien. C'était le 27 février, la première fois où il a mis en état d'alerte
tout son système.
On se souvient tous de cette rencontre avec le ministre de la Défense Shoigu et son chef d'état-major Gerasimov. Mm-hmm. Après, il y a plusieurs personnalités russes et plusieurs fonctionnaires russes qui l'ont utilisé. Donc, du coup, on est obligé de le prendre au sérieux, y compris dans les camps anti-occidentaux, tout en sachant que, je suis d'accord avec vous, mon général, c'est jamais à la légère. On a connu déjà, je peux rajouter encore la crise des Caraïbes. Il y a eu aussi, en 1983, une manœuvre de l'OTAN qui se passait en Allemagne, et on a failli aussi avoir presque une guerre nucléaire. Donc, à plusieurs reprises, cette question était venue sur le plateau. Mais je dirais que le problème avec Vladimir Poutine, c'est qu'on se pose la question, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'il est rationnel? Et vu comment il mène la guerre, on se poserait déjà la question, est-ce que même au niveau d'armes conventionnelles, il est rationnel, si rationnel que ça?
Vous pensez qu'il y a une part de bluff dans ce qu'il dit, évidemment? C'est un ancien du KGB, lui aussi? Il a appris à mentir, il a appris à jouer avec les faiblesses de l'ennemi aussi.
Il a appris à mentir, mais c'est justement ça que je raconte souvent quand on me pose cette question, c'est qu'on était dans la même école, et en fait, au bout d'un an de formation dans cette école, les formateurs de cette école, là, ont dit, on ne veut pas de lui dans le service d'espionnage parce que cette personne est dangereuse, parce qu'elle peut prendre sur le coup d'émotion les décisions qui sont dangereuses pour lui et pour le service. Ils n'ont pas voulu de lui. Mmh. Et donc, vous imaginez, avec une telle caractéristique, il se retrouve maintenant à la tête du plus grand arsenal nucléaire qui représente 45% de l'arsenal nucléaire mondial. Bah voilà, ça ne nous rassure pas.
Non, effectivement. Eric Nolot, inquiétude des Français. 63% d'entre eux disent qu'ils ont peur que Vladimir Poutine mette sa menace à exécution.
Parce que les choses tournent mal pour Vladimir Poutine en Ukraine. Le problème, c'est qu'une mauvaise nouvelle pour Poutine n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le monde. Comme il ne peut pas se permettre de perdre cette guerre, ça ne fait que renforcer son jusqu'au boutisme. Alors le jusqu'au boutisme, il est sur trois fronts, si j'ose dire. Il mobilise donc 300 000 réservistes. Il dit qu'il va organiser des référendums séparatistes dans le Donbass et ailleurs. Et puis, en effet, M. Zhirnov le disait, c'est là au moins la deuxième fois que publiquement, il agite la menace nucléaire. Donc, il appuie sur tous les boutons pour essayer d'impressionner l'adversaire. L'impression que ça donne, mais vous connaissez ça mieux que moi, on a quand même l'impression d'un homme qui joue presque toutes ses options. Il n'y a plus grand-chose. Il n'a plus beaucoup de cartes à jouer. La menace est maximale. Les réservistes... Enfin, si, il peut y avoir la mobilisation générale, mais enfin, les réservistes, les référendums séparatistes, l'arme nucléaire, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un joueur de poker qui fait tapis et ensuite, qu'est-ce qu'il pourra faire?
Général Clermont?
Bah, écoutez, pour l'instant, il ne reste plus que deux lignes rouges dans ce conflit. Hein. La première ligne rouge, on l'a évoquée, le fait que jusqu'à présent, les Américains, je pense, ont convaincu les Ukrainiens de ne pas toucher au territoire de la Russie. Donc l'essentiel de la guerre se déroule sur le territoire ukrainien.
Preuve en est que la seule attaque offensive qu'il y a eu officiellement sur l'Ukraine, qui est pour la Russie une partie de la Russie, mais qui n'est pas reconnue par la Russie pour l'autre, ça a été une seule fois, c'était le 9 août. C'était une frappe effectuée par les Ukrainiens avec du matériel ukrainien et pas du matériel américain. Et les Ukrainiens ont mis 3 semaines pour reconnaître que c'est eux qui avaient frappé. Donc jusqu'à présent, il y a eu très peu de frappes de l'Ukraine sur les territoires russes, aucune frappe en Biélorussie. Donc il y a quand même une volonté de... Et ça, c'est le paradoxe, c'est que les Américains poussent, sont présents d'une manière extraordinairement forte derrière les Ukrainiens, mais ils ne veulent pas la guerre contre la Russie directe. Donc l'Ukraine se bat un peu avec une main dans le dos parce qu'elle ne peut pas aller frapper la Russie au-delà des frontières de l'Ukraine, ce qui rend compliqué quand même le fait de gagner la guerre. Alors que de ce point de vue-là, la Russie n'a pas sa limite, elle tape l'Ukraine partout où elle veut, en particulier les sites stratégiques, la logistique, etc.
Et l'autre ligne rouge, c'est quoi? C'est l'utilisation d'armes non conventionnelles?
Alors, la deuxième ligne rouge, c'est effectivement le fait qu'on on a... abandonné, et là ça rejoint un peu la première, c'est que les Américains aujourd'hui refusent de livrer, et ça c'est un peu étonnant, hein, des armements que les Ukrainiens pourraient utiliser sur les territoires de la Russie. Alors, c'est étonnant parce que par exemple il y a l'affaire des fameux HIMARS, là, qui sont les lance-roquettes multiples, pour lesquels les Américains ont livré la version 80, 70, 80 km, qui a fait des dégâts très importants, ils sont très précis, très efficaces, mais ils se refusent à livrer la version 300 km. Or, il suffit de dire aux Ukrainiens, vous avez la version 300 km, mais vous ne frappez pas sur sur la Russie. Donc, ils ne veulent pas être responsables du fait que des armements américains causeraient des dégâts sur les territoires de la Russie.
Situation très compliquée. Je vous repasse la parole dans un instant, M. Girnovre. On fait une toute petite pause. On s'intéressera à ce qui se passe en Russie. Est-ce qu'il y a un véritable exode de ceux qui pourraient être appelés dans les rangs des réservistes ou pas? À l'instant, l'armée russe dit qu'il y a eu 10 000 volontaires qui se sont portés candidats en 4 heures pour aller combattre en Ukraine. Version, contre-version, propagande, contre-propagande. On tente d'y voir plus clair dans un instant. À tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités, le général Clermont, Sergueï Girnov, ancien du KGB, Eric Nolot et Eric Revel. On va s'intéresser à ce qui se passe en Russie après cet appel à la mobilisation des réservistes annoncé par Vladimir Poutine. Certains de ceux qui pourraient être appelés ont décidé de quitter le pays, soit par voiture, soit par avion. On fait le point avec Michael Dos Santos et puis après je vous pose la question de ce qui se passe réellement en Russie, monsieur Girnov.
Des embouteillages sur les routes à la frontière entre la Russie et la Finlande et des centaines de vols au départ de Moscou et Saint-Pétersbourg. Ces passagers, arrivés à Belgrade ce matin, avaient réservé leur vol de longue date.
Ma venue ici n'a pas de lien avec la mobilisation, mais c'est peut-être un coup de chance pour moi. Ou pas, on verra.
La guerre est une chose horrible. C'est normal d'avoir peur de mourir, toutes ces choses-là.
Hier, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des réservistes. 300 000 personnes destinées à rejoindre les soldats déjà déployés sur le front. Conséquence immédiate, le tarif des billets d'avion au départ de Russie a explosé. Un Moscou-Istanbul coûte désormais plus de 1 000 euros, environ 4 fois plus qu'il y a une semaine. Une envolée des prix constatée par Gilles Chénesseau, directeur de Tsar Voyage.
Ça ne fait que rajouter encore un peu plus de difficultés et de prix à ces avions qui sont déjà pris d'assaut. Jusqu'à dimanche, pratiquement, Istanbul, il n'y a rien. Erevan, c'est à des prix déments. Trouver un aller simple à 7 000 euros.
Cette augmentation des prix s'explique aussi par le peu de destinations actuellement ouvertes. Depuis la fermeture de l'espace aérien européen, seule une poignée de pays comme la Serbie ou les Émirats ont une liaison directe avec la Russie.
Voilà, alors il y a ces Russes qui tentent de fuir et puis l'état-major russe, évidemment, réagit à l'instant. Il dit il y a eu 10 000 volontaires qui ont demandé à être mobilisés en Ukraine en 24 heures. Ils sont venus d'eux-mêmes au commissariat, dans les commissariats, sans attendre leur convocation. Sergueï Girnov, c'était impossible pour la Russie de laisser voir ces images comme quoi tout le monde s'enfuit pour ne pas être envoyé en Ukraine.
L'état-major, vous avez un général Konashenkov dont le rôle est de mentir depuis 7 mois. Il a pris même une étoile sur ses épaulettes grâce à ça. Ce que dit l'état-major, parce que si vous l'écoutiez, les Russes n'ont perdu que 6 000 personnes dans cette guerre.
Donc, en réalité, c'est beaucoup plus.
Bien évidemment, c'est beaucoup plus. Si vous avez les renseignements américains et anglais, eux parlent d'entre 20 et 25 000, voire peut-être même 30 000. Les Ukrainiens parlent de 55 000. Et le ministère des Finances russe a reconnu 48 000,
d'accord,
finalement. Parce qu'en fait, il y a l'argent qui doit être versé aux familles. Donc, à cause de ça, ils ont dévoilé ce chiffre. Donc, bien évidemment, ils sont un peu acculés. Et ils étaient obligés de sortir ça parce que tout le monde parle de cet exode. Donc, bien évidemment, tous les Russes qui ont de l'argent essaient de fuir.
Mais on parle vraiment d'un exode, là où c'est centaines, peut-être milliers de personnes sur un pays de plus de 100 et quelques millions d'habitants ?
Non, sur cette vague-là, ce n'est pas un exode. Parce que, okay. Bien évidemment, on a bien dit, il faut avoir de l'argent. En plus, les prix ont flambé. C'est entre 3 et 10 000 dollars pour un billet. Donc c'est énorme.
Pas accessible à tout le monde.
Donc voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus que dès le début du conflit, il y a quelques 450 000 Russes qui ont quitté le territoire après le 24 février, dont les Russes les plus qualifiés.
Éric Revel, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, et après, je voulais juste, mais c'est un vieux réflexe, hein, pardonnez-moi, Laurence, je me méfie toujours de toutes les manipulations médiatiques d'où qu'elles viennent.
Information.
Bah oui, parce que bon, là, on est incapable de voir si c'est un exode massif, ça n'a pas être l'air d'être le cas, parce que les avions ne sont pas non plus extensibles. On est incapable de justifier ou de vérifier le chiffre de 10 000 conscrits qui, patriotiquement, viendraient aider l'armée russe. Moi, je suis quand même extrêmement méfiant, si vous voulez, sur les informations des uns et des autres. Moi, j'en ai pas. Mais si vous voulez, on sait qu'une guerre, par définition, c'est aussi une guerre d'image et une guerre de communication.
Entièrement d'accord.
Donc, si vous voulez, les chiffres donnés par les Américains, évidemment, ils sont énormément plus importants en termes de désastre pour l'armée russe que ceux que donne, en minimisant la direction de l'armée russe. Mais vous voyez, je me méfie de la propagande russe. Évidemment, mais par définition, je me méfie aussi de la propagande américaine.
Ah, vous avez
parce
raison.
Que si vous venez, si vous vous souvenez bien, pendant la guerre en Irak, il y avait quasiment aucune population civile qui mourait. Ouais. Tout était ciblé, tout était sous contrôle. Et d'ailleurs, les chaînes de télé à l'époque, CNN et les autres,
Tchétchénie, Syrie, c'est la même chose.
Donc c'est pour ça que je
suis d'accord.
Éric Nolot.
Je me tourne vers notre général. On a la chance d'avoir un général sur le plateau. Est-ce que la question, c'est celle du nombre, des 300 000 ou des 10 000, parce qu'on a l'impression que l'armée russe, ce n'est pas un problème du nombre de soldats, c'est qu'elle est minée par des faiblesses qui nous semblent très étonnantes.
Non, vous avez raison, elle a un problème de faiblesses structurelles qui sont liées, on l'a évoqué, surtout à la corruption, au fonctionnement de cette armée qui s'est délitée au fil des années et qui a été gangrénée par la corruption à tous les niveaux. Et puis le deuxième, c'est que malgré tout, même dans une année d'une armée bien organisée et structurée, elle n'a pas assez d'hommes. Et ça, depuis le début, elle aurait eu assez d'hommes si le 24 février, elle avait été accueillie par des bouquets de fleurs. À ce moment-là, il avait suffisamment.
Ce qu'ils espéraient dans un premier temps.
Ce qu'ils espéraient. Et en réalité, quand ils ont massé leurs troupes, c'est le scénario auquel ils s'attendaient. À partir du moment où ils sont rentrés dans une guerre dure, on s'est rendu compte tous très vite qu'ils n'avaient pas beaucoup d'hommes. D'autant plus que dans la première phase, ils ont perdu énormément d'hommes. Donc ils ont attaqué la deuxième phase, celle dans laquelle ils sont concentrés sur le Donbass, avec déjà des pertes très lourdes. Il y a également des pertes très très lourdes du côté ukrainien. Mais ukrainien, il y a la population pour remplacer les soldats ukrainiens.
Je me permets de parler sous vos contrôles. Il y a aussi un problème structurel, disent les experts, dans l'armée russe, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sous-officiers. C'est-à-dire que vous avez une hiérarchie qui est ailleurs et qui décide, et vous avez des soldats sur le terrain qui sont parfois
livrés eux-mêmes.
Et on dit que vous manquez, enfin pardon, vous êtes russe, beaucoup de sous-officiers d'encadrement. C'est-à-dire que les ordres arrivent très très mal.
En fait, on a des sous-officiers.
Sergueï Jirnov.
Le problème n'est pas l'absence des sous-officiers. Les sous-officiers en Russie existent comme dans n'importe quelle armée. C'est le rôle qu'ils ne jouent pas. Parce qu'en fait, dans les armées occidentales, le sous-officier joue un rôle opérationnel, décisionnel opérationnel. Ça veut dire que nous, dans nos armées soviétiques, russes, etc., on attend toujours l'ordre d'un général. Et c'est ça le problème. Parce que dans l'armée, suffit de regarder tout simplement Hollywood. Vous vous souvenez d'Hollywood, il y a les conscrits qui arrivent. Qui c'est qui les accueille ? C'est le sergent-chef. C'est le sergent-chef, c'est lui qui organise tout et il y a même souvent même pas d'officier aux alentours. Et donc voilà, c'est ça la différence.
Général Clermont.
Non, effectivement, les problèmes sont structurels, sont très nombreux. On peut passer un très long moment à les lister. Les forces russes aujourd'hui, malgré tout, ont la puissance de feu, ne sont pas organisées, mais conservent la puissance de feu. L'aviation russe est pratiquement intacte. Elle a été très, très peu utilisée, l'aviation russe. C'est une catastrophe. Moi, je suis aviateur, donc je vois bien la façon dont ils auraient dû procéder avec la puissance de leur aviation. Et il manque d'hommes.
Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils utilisent ?
Ils ne le font pas, ils ne savent pas le faire. Ils n'ont pas appris le faire. Ça, c'est la conséquence de la rigidité du commandement. Le manque d'initiative, chacun se défausse, les informations qui remontent sont pas vraies. En fait, c'est l'organisation d'un mensonge qui fait qu'il n'y a pas de confiance, donc plus personne ne bouge. Donc c'est une espèce de fossilisation des opérations militaires qui pénalise extrêmement sur le terrain. Alors que l'armée ukrainienne, qui au départ était à peu près comme l'armée russe il y a 20 ans, elle a été prise en main avec les Américains. En réalité, c'est une armée russe.
Il faut répéter. Rustique. Elle a été prise en main par les Américains.
Je confirme.
Allez-y, mais je n'ai pas terminé.
C'est très important.
Une armée, on le dit pas c'est une armée. Souvent. C'est une, en quelque sorte une armée russe, très rustique, très motivée, 10 fois plus motivée qu'en face, et formelle américaine. Enfin, c'est le cocktail gagnant. Il n'y a pas plus puissant que l'armée ukrainienne si on additionne toutes ces caractéristiques.
Vous voulez dire que la Russie pourrait perdre en Ukraine ?
Je veux dire que le conflit va certainement durer très longtemps, qu'il n'est pas impossible, je crois que c'était évoqué, je pense que la mauvaise surprise pour Poutine, c'est de se rendre compte qu'il va perdre les territoires qu'il a conquis péniblement en plusieurs mois. Donc là, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Il prend une décision qui est importante, et on va revenir sur la deuxième ligne rouge. Première ligne rouge, on ne frappe pas la Russie. Désolé, je l'ai zappé.
Et la deuxième ligne rouge.
Deuxième ligne rouge, je peux recourir au nucléaire. Et j'expliquerai c'est dans ça. Quelles conditions il peut recourir au nucléaire. Et exactement. Ça, il ne l'a pas fait, mais rien ne dit qu'il ne le fera pas. Donc pour l'instant, les 300 000 hommes qu'il va péniblement recruter, former, équiper, envoyer au front, quand on voit toutes les lourdeurs administratives, ça va être un cauchemar. Il en aura 300 000, il en aura 50 000. Hein. C'est en général comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, il a besoin de renforts. Et surtout, ça lui permet de continuer à gagner du temps, à essayer de faire ce que ses généraux lui disent. Vous inquiétez pas, monsieur le président, on va gagner la guerre. Donc on n'est pas encore dans la logique de la bascule sur la dissuasion. L'appel régulier, systématique à l'arme nucléaire, c'est dans le fonctionnement d'un dialogue stratégique entre les puissances. Le but est d'impressionner. C'est comme ça la dissuasion. Le problème, c'est qu'on s'en sert pas souvent. Bah, tant mieux qu'on s'en sert pas souvent. Mais quand on s'en sert, on se rend compte que c'est terrifiant. Le but, c'est de terrifier l'adversaire. C'est comme ça qu'elle fonctionne. La différence, et je terminerai rapidement sur le sujet, c'est que dans la doctrine russe, il y a effectivement la possibilité. Poutine a compris qu'il était en infériorité numérique du point de vue conventionnel. Donc, il y a une disposition de la doctrine russe qui permet d'utiliser l'arme nucléaire pour compenser son infériorité conventionnelle.
Et là est le danger.
Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, il peut y avoir une arme nucléaire tactique, une arme nucléaire qui n'est pas que tactique. Pardon, elle n'est pas que tactique.
Alors, laissez juste terminer.
Il faut quand même le préciser.
Elle n'est pas que tactique. C'est un peu comme ça que la doctrine française fonctionnait dans les années 80, parce qu'on avait aussi des armes tactiques. C'est le prélude, c'est un avertissement pour dire, vous savez, je cherche un effet militaire sur le champ de bataille, mais je vous rappelle que j'ai des armes nucléaires, je suis prêt à m'en servir.
C'est ça.
Jamais personne ne l'a fait depuis 80 ans. Est-ce que Poutine le fera ?
C'est important ce que vous avez dit, il faut quand même le préciser.
Oui, bien sûr, c'est une arme tactique.
On parle d'armes tactiques.
On parle d'armes tactiques.
Voilà, non, on parle d'armes tactiques, mais qui font des centaines de milliers de morts quand même.
On parle d'armes tactiques.
Éric Nolot.
Non, mais moi j'ai lu Guerre et paix de votre compatriote Tolstoï, et Tolstoï explique que peu importe la valeur des généraux du pouvoir, ce qui compte dans une bataille, c'est est-ce qu'il y a le sentiment collectif qu'on va gagner. Oui. C'est celui qui a ce sentiment collectif. La plupart des Ukrainiens sont prêts à mourir pour l'Ukraine. Je pense que la plupart des Russes ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. Mais, puisque vous avez des informations, quel est le sentiment collectif en Russie ? Est-ce qu'il y a quand même encore un réflexe patriotique suffisant pour susciter des volontaires sur le front, pour éviter des désertions, ou vous pensez que c'est quelque chose que le conflit, en fait, peut basculer parce que l'opinion publique russe basculerait ?
Sergueï Girnov.
Je crois que cet engagement idéologique, en quelque sorte, aux partisans ou patriotiques, il existe. Bien évidemment, il existe. Mais il est loin d'être celui que Poutine annonce. Donc, il a annoncé 80% les Russes soutiennent cet effort de guerre. La preuve, c'est qu'il n'arrivait pas à recruter. Il n'arrivait pas à recruter suffisamment. Et pourtant, il y avait des sommes qui étaient faramineuses pour la Russie. On vous proposait entre 6 et 10 000 dollars pour aller combattre sur le front ukrainien. Le salaire moyen russe, c'est 150 euros. Donc, quand on propose déjà un chiffre comme ça dans les régions qui sont mourantes, où il y a personne, où il y a du chômage, etc. Et même avec ça, il n'arrivait plus à recruter, d'où cette mobilisation. Je crois que de toute façon, ils ne sont pas suffisamment motivés. Cette mobilisation ne va pas rajouter à cette motivation.
On va juste regarder et écouter les réactions des Ukrainiens à cet appel à la mobilisation des réservistes russes. Explication de Yael Benamou, puis on en débat ensuite.
Anna a 24 ans, elle habite à Kiev et elle est perturbée par les annonces de Vladimir Poutine.
Je ne peux pas parler de la stabilité émotionnelle. Ça dépend du moment de la journée, des actus. Alors, notamment avec, avec les menaces du président russe sur l'attaque nucléaire, ça fait un peu, ça augmente la tension.
Ce n'est pas la première fois que le président russe agite la menace nucléaire, mais pour Anna, il reste imprévisible.
Le 22 février, on ne croyait pas qu'au 21e siècle, c'est possible de se retrouver au milieu de la guerre. J'espère que c'est le bluff.
Bluff ou pas, Roman, un habitant de Kiev, se veut résilient.
Même si le danger est réel, il ne faut pas que ça nous immobilise. Donc, il faut continuer à combattre. Voir les succès au front, ça aide de continuer à croire à la victoire.
Désormais, de nombreux Ukrainiens croient en la victoire depuis leur récent succès militaire, notamment depuis la reconquête de la région de Kharkiv.
Général Clermont, on voit que les Ukrainiens sont inquiets, évidemment, parce que la frappe tactique qu'on évoquait, ce serait plutôt sur le sol ukrainien que sur sol européen.
Moi, je pense qu'il faut quand même, c'est important de rassurer les Français. Je connais assez bien la dissuasion nucléaire française. J'ai passé 15 ans de ma vie militaire dans ce domaine-là. Elle fonctionne, elle a fonctionné, elle fonctionnera. Bon. Mais ce n'est pas parce que la dissuasion nucléaire fonctionnera qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Il faut bien faire la différence entre les deux. Il peut très bien y avoir un tir d'armes nucléaires très limité par la Russie au-dessus de l'Ukraine. Imaginez que ça se produise. C'est un arrêt instantané des combats. C'est le monde s'arrête de respirer. Mm-hmm. Quand vous voyez ce qui se passe quand la reine d'Angleterre décède, mm-hmm. imaginez ce qui se passerait si une bombe nucléaire, même de faible puissance...
Bien entendu.
Donc ça s'arrêterait les combats et je pense que ça obligerait tout le monde à aller autour d'une table de négociation. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un usage d'une arme nucléaire qu'il y a forcément l'apocalypse nucléaire.
Bien sûr. Un petit mot avant la pause, M. Germain.
Aussi, cette onde de choc, je crois que ça, c'est la ligne rouge pour le monde. C'est-à-dire que si Poutine franchit celle-là, il sera vraiment sur le banc des parias. Et à ce moment-là, imaginez la Chine... comment elle réagirait, la Chine ? Parce que les États-Unis, c'est compréhensible. Mmh. Le monde occidental, c'est compréhensible. Mais même les Chinois, et c'est une nation commerçante, c'est une nation qui vit sur le commerce extérieur, dont dépend la moitié de son export, c'est les États-Unis et l'Europe.
Je voulais vous poser une question.
Juste après la pause, parce qu'il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Et c'est le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.
Volontaires ont demandé à être mobilisés en Ukraine en 24 heures, selon l'armée russe, au lendemain de l'annonce de Vladimir Poutine lors de la première journée de mobilisation partielle. Ces citoyens sont arrivés par eux-mêmes au commissariat militaire sans attendre leur convocation, a affirmé un porte-parole de l'état-major. À l'ONU, Sergueï Lavrov rejette les accusations occidentales concernant la guerre en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé « Kiev doit son impunité à ses partenaires occidentaux ». Déclaration faite devant ses homologues, dont l'ukrainien, lors de cette réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a mis en garde contre une escalade militaire en cas de visite massive de juifs sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. En vertu d'un statu quo historique, les non-musulmans sont autorisés à visiter l'esplanade, mais pas à y prier. Or, selon le Hamas, certains fidèles juifs entorsent cette règle, notamment pendant la saison des fêtes juives qui s'amorce ce dimanche.
Il est 18h31, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, une toute petite pause et puis on reviendra à la situation en Ukraine et face à la Russie. Il y a des échanges de prisonniers, on verra que certains guerriers d'Azovstal ont été rendus à l'Ukraine. A tout de suite dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
– 18h35, bientôt 36, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec le général Clermont, général de corps aérien, Sergueï Girnov, ancien du KGB, Eric Nolot et Eric Revel. On évoque la situation évidemment en Ukraine et les menaces de la Russie. Il y a eu hier, juste après l'allocution de Vladimir Poutine, dans laquelle il menaçait d'utiliser les armes nucléaires, une opération d'échange de prisonniers. Visiblement, ça faisait longtemps qu'elle avait été prévue. Parmi les personnes libérées, des militaires, des policiers ou encore des membres du régiment d'Azov, toutes les précision avec Michael Dos Santos.
La fin d'un calvaire au beau milieu de la nuit. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays. Un prisonnier libéré embrasse même le sol. 215 bonnes nouvelles pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière.
et surtout pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité.
Parmi ces prisonniers ukrainiens libérés, 188 avaient défendu la scierie Azovstal à Marioupol, symbole de la résistance à l'invasion russe. En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine.
Général Clermont, ça veut dire quelque chose, ces échanges de prisonniers ou pas ?
Alors,
ça a une signification ?
Oui, à la fois non. À la fois non, parce qu'en réalité, c'est dans toutes les guerres, les échanges de prisonniers. Ça fait partie des boîtes d'échange qui est largement utilisée. Néanmoins, dans le cas d'Azovstal, du bataillon Azov, c'est un peu étonnant. Parce que souvenez-vous que lorsque les Russes ont mis de la pression sur Marioupol, ils devaient tous les juger, les exécuter, les envoyer en Russie et puis les pendre. Donc on se rend compte qu'effectivement, tout ce que disent les Russes n'est pas vrai. D'ailleurs, la plupart de ce qu'ils disent est faux. Bon, ce n'est pas les seuls d'ailleurs. Et en tout cas, c'est ça qui est étonnant, c'est que 188 soldats d'Azov de Marioupol aient été libérés. Après, le deuxième élément, je trouve intéressant, c'est le rôle évidemment d'Erdogan dans les négociations. Et puis finalement, c'est aussi un peu celui de Mohamed Ben Salman, là, qui a récupéré les dix prisonniers étrangers, qui en quelque sorte se rachète une conduite aux yeux de l'opinion internationale.
Sergueï Jornov, vous vouliez ajouter quelque chose sur ces échanges de prisonniers ?
En réalité, c'est très important parce que justement, cette composante d'Azov, pour les Russes, c'était le drapeau rouge. Enfin, donc en fait, c'est le chiffon rouge qui était impossible de contourner. Il y a eu d'ailleurs un problème de 53 prisonniers d'Azov qui ont été tués lors de l'explosion dans la prison chez les Russes. On ne sait toujours pas. Je ne sais pas si la commission d'enquête onusienne est arrivée à éclairer ça. Et de toute façon, c'est une énorme victoire pour Zelensky, parce que Zelensky, vous savez, il était dans la position très fragile, parce qu'il a ordonné à ses hommes de se rendre. Et il a ordonné en disant que je vais garantir votre vie. Et donc, le coup de 53 prisonniers qui étaient tués, donc pour lui, ça lui a porté un énorme préjudice à l'intérieur de l'Ukraine. Et là, les presque 200 personnes qui sont échangées, dont les combattants Azov, là, c'est un très gros coup. Oui. Et d'ailleurs, ça prouve que les Russes, c'est une preuve peut-être de volonté quand même russe de montrer qu'ils sont prêts à peut-être négocier quelque chose.
Et peut-être qu'ils prennent soin des prisonniers, en tout cas ceux-là, ces prisonniers ukrainiens, n'ont pas été maltraités.
En même temps, ça se passe quasiment en même temps que Poutine proclame cette mobilisation. Donc du coup, on s'y perd.
Éric Revel et
oui,
après Éric Nolot.
Question. On se dit que Poutine va peut-être utiliser une arme nucléaire tactique. Est-ce que ce qui se passe en ce moment de la part de ses alliés ne peut pas le faire réfléchir ? Je veux dire, la déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, qui dit maintenant il faut négocier, Erdogan qui a dit je n'en connaîtrai pas les référendums dans les rues, hein. La même chose pour l'Inde, est-ce que ça, c'est pas quand même pour Poutine un sujet de réflexion ?
Moi j'avais un énorme espoir par rapport à ça, surtout la semaine dernière quand il y avait ce sommet géopolitique en Ouzbékistan, avec la visite qui est passée quasiment inaperçue de Xi Jinping au Kazakhstan. Et la veille de cette visite, les Chinois ont dit c'est nous qui garantissons dorénavant la sécurité du Kazakhstan face aux Russes. Et donc, il y a eu quand même des avertissements qui étaient très clairs. Donc, vous avez mentionné Modi qui a dit à Poutine, vous savez, notre pays, on aime bien la tradition Gandhi, pacifiste, etc. Et Poutine a dit, je vais essayer de terminer très rapidement cette guerre. Bon, là, on a eu peur, hein, parce que très rapidement, ça veut dire que je vous fous aussi la bombe nucléaire sur la tête, et puis c'est terminé. Mais il y a eu aussi un espoir, puisque Poutine a annulé en fait la proclamation la veille. Et puis on se disait, il y a peut-être des pressions, il y a peut-être des Chinois, mais Patrouchev est allé en Chine il y a trois jours. Patrouchev, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité de Poutine, c'est quasiment le bras droit de Poutine. Et finalement, on a senti que c'est peut-être les Chinois qui ont dit, bah, finalement, allez-y avec cette mobilisation. Donc on s'y perd.
Erdogan aussi, c'est nouveau.
Mais Erdogan, non, c'est pas nouveau. Et Erdogan s'implique énormément dans
le
conflit.
Mais la façon dont il a dit, je ne soutiendrai pas les référendums dans les provinces russophones.
Il a jamais soutenu la Crimée, il a dit un moment déterminant
quand même, je trouve. Poutine est fragilisé. Okay,
qu'on fasse oublier qu'il fait sa propre guerre au Nagorno-Karabakh. Oui.
Évidemment.
Projetons-nous dans l'avenir. Sur quoi pourrait porter un compromis ? Pour l'instant, les deux parties sont dans des postures maximalistes. Les Ukrainiens disent non seulement On veut récupérer le Donbass, on veut même récupérer la Crimée. De l'autre côté, Poutine dit « je veux gagner cette guerre » et de toute façon, on va organiser des référendums séparatistes. Donc quel pourrait être le compromis? Qu'est-ce que les Ukrainiens pourraient lâcher pour parvenir à un accord de paix? Qu'est-ce que les Russes pourraient lâcher pour parvenir à ce même accord de paix?
À mon avis, ça c'est mon avis, la seule issue, c'est négocier la tête de Poutine. Ah. C'est-à-dire, pour les Russes, dire « Poutine a commis une faute, c'est lui tout seul qui est responsable de ça, donc on l'évince. On peut le juger, le liquider, peu importe. En fait, il peut tomber malade et disparaître. Et comme ça, on lui met sur le dos toute la faute. On retire les troupes. Les Ukrainiens sont contents. Le monde est content. On annule les sanctions. Tout le monde revient au point de départ.
On n'y est pas encore, là.
Et en fait, je crois que c'est la seule possibilité d'issue parce que je suis d'accord avec vous. Parce qu'en réalité, actuellement, au niveau de pourparlers, il n'y a rien. Personne ne veut négocier. Mmh. Mais en même temps, vous avez vu cet échange. Donc les Russes négocient quand même derrière. Il y a eu la négociation sur les grains. Donc ça existe quand même.
Les céréales, vous voulez dire?
Les céréales.
Oui, d'accord. Général Clermont, qu'est-ce qui pourrait permettre de trouver une, non pas une issue, mais au moins une petite voie de sortie?
Personne n'a réponse à cette question. Oui. On en est toujours au bruit des canons et au bruit des armes. Tant que la ligne de front ne sera pas un peu stabilisée. Or, on a vu qu'elle est en train de s'inverser. En tout cas, elle se modifie. Personne n'est en mesure de dire « j'arrête les combats ». Pour l'instant, il faut que la ligne de front se stabilise. Alors, éventuellement, des négociations pourraient commencer. Mais on n'en est pas là. Le fait que Poutine relance la mobilisation de 300 000 personnes, même s'il y en a que 100 000 qui arrivent, ça va relancer la guerre. L'hiver arrive. La guerre va être plus difficile à faire l'hiver. Donc, on est parti. On ne voit pas un accord de paix avant l'hiver. Donc, pendant l'hiver, les forces vont se reconstituer. On est reparti pour plusieurs mois. Bon. La seule bonne nouvelle, je me permets de le dire, parce qu'on a parlé beaucoup de nucléaire, c'est que là, avec cette stratégie de Poutine, le recours à l'arme nucléaire s'éloigne, si tant est qu'il était possible. Et on a rappelé quand même qu'il était possible. Sur ce point, peut-être un dernier point. La différence entre toutes les crises nucléaires qu'il y a eu jusqu'à présent et la crise actuelle, c'est la personnalité de Poutine et le régime de Poutine. C'est un homme seul, c'est un homme corrompu, c'est un homme qui contrôle des oligarques. Il ne fonctionne pas comme fonctionnait le président de l'URSS. Il n'y a pas le soviet derrière, il y a une espèce de mission collective reconnue.
Donc c'est il est plus fragile, puisque c'est un homme seul.
À la volonté de que la seule solution, c'est un changement de régime. Et plus on va le pousser dans des retranchements qui se deviendront
inquiétants. J'aimerais juste qu'on écoute Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, sur ces questions internationales. Lui, il estime que la Russie ne peut pas perdre cette guerre. On va écouter son raisonnement.
La Russie, elle ne peut pas perdre cette guerre. D'accord. Si elle la perd, alors ce n'est pas seulement le régime qui risque de disparaître au profit d'ailleurs, non pas des démocrates, mais peut-être de pire, c'est-à-dire des nationalistes. Des hyper-nationalistes, oui. Je pense que les démocrates ne sont pas assez forts en Russie pour prendre le pouvoir et l'exercer. Mais en revanche, il y a toute une frange de nationalistes qui risque d'être pire.
Sergueï Girnov, est-ce que si Poutine devait quitter le pouvoir, il y aurait pire derrière lui, comme le dit Henri Guénaud, c'est-à-dire des nationalistes encore plus durs?
On a peur, ça existe réellement, parce qu'en fait, ces gens-là, vous les retrouvez tous les soirs à la télévision russe, en fait, sur la première chaîne, là, qui vous raconte des pires choses. En fait, la guerre nucléaire, eux, ils bombardent Washington, New York, Paris, Londres, etc. Ça, ils sont là. Dugin, celui, vous vous souvenez, celui dont on a assassiné la fille. Lui, c'est pareil, c'est un facho. C'est quelqu'un qui... En plus, c'est un facho théoricien, ça veut dire, et théorise ce nationalisme. Et donc, il y a bien évidemment tout ça. Mais il y a pire que ça. Vous avez aussi la possibilité pour un certain nombre de territoires qui s'appellent les républiques autonomes à l'intérieur de Russie. Il y a 85 sujets de fédération. Et on peut imaginer tout à fait parfaitement la dislocation de Russie, comme c'était le cas pour l'URSS.
Pour l'URSS, absolument. Voilà. Général Clermont.
Absolument, c'est ce qu'a précisé Henri Guénaud également ce matin. C'est un risque, c'est l'éclatement de la fédération de Russie, avec des conséquences extrêmement sérieuses pour la stabilité européenne.
Oui, bien au-delà de ce qui se passe actuellement en Ukraine.
Donc... comme d'habitude, enlever un dictateur, c'est toujours ça réserve toujours des surprises très inquiétantes.
Éric Revel. Oui,
l'un des terrains idéologiques que j'entends souvent développé par Vladimir Poutine, c'est de dire, mais regardez, l'Occident, ce sont des pays à la dérive, ce sont des pays qui n'ont plus de sentiments nationaux, c'est des pays qui n'ont plus de valeurs. Au-delà de ce qu'il commet, évidemment, en Ukraine, est-ce que vous considérez, par rapport à l'évolution de la Russie, que c'est quelque chose qui peut s'entendre quand vous vivez en France et vous avez vécu en Russie. Parce qu'on peut considérer que nos pays sont un peu à la dérive. On parlait tout à l'heure de wokisme, de cancel culture, d'abandon, de plein de nos repères. Est-ce que c'est un argument qui s'entend, d'après vous ?
Bah, c'est un argument qui monte, au contraire. Ça monte déjà en Europe. Vous avez tout un tas de partis populistes qui s'appuient sur ce document, sur cet argument déjà à l'intérieur de l'Europe. Et donc, ils ont des partenaires, parce que vous avez plein de mouvements comme ça qui avaient des partenariats en Russie. Oui, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, oui.
Éric Nolot.
Oui, mais enfin, il avait fait un peu ce calcul aussi Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. Il avait complètement sous-estimé le sentiment national.
C'est pour ça que je posais la question. C'est exactement ça.
Il pensait que c'était la Russie.
C'est exactement ça.
Non, c'est exactement ça. Mais il l'a provoqué, parce qu'en fait, il a renforcé ce sentiment et il a créé quasiment la nation ukrainienne. Parce que les Ukrainiens avaient hésitation. Ils se cherchaient, ils se disaient oui, on est un peu perdu. Et là, c'est une nation ukrainienne qui est à mort derrière Zelensky et à mort derrière le drapeau bicolore ukrainien. Donc, Poutine, oui.
Juste pour revenir une minute, vous avez décrit les scénarios les plus pessimistes, avec des gens encore plus durs que Poutine. Est-ce qu'il y a quand même une alternative, je ne vais pas dire démocrate, mais enfin, moins inquiétante que Poutine ou les super faucons. Est-ce que ça existe, tout simplement ?
Oui, ça existe. Le problème, c'est que la majorité de cette opposition est à l'étranger. Donc, c'est les gens qui sont représentés comme Kasparov, Garry Kasparov, l'ancien champion des échecs, et d'autres personnes. Donc, en fait, si ça existe, il y a en France, il y a aux États-Unis, il y a
en prison en Russie, comme Navalny.
Ou sinon, en prison en Russie. Et après, il y a une grande masse. En fait, vous savez ce qu'on dit ? Actuellement, il y a à peu près un quart de population qui sont les ultranationalistes de droite, en quelque sorte. Il y a un quart qui sont plus ou moins libéraux et démocrates. Et 50%, c'est au milieu, en fait, c'est un peuple qui n'arrive pas à se décider pour qui il est, est-ce que c'est sa guerre à lui ou pas.
D'accord. J'aimerais juste qu'on s'intéresse, il nous reste encore quelques instants, à la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. La situation se dégrade encore, c'est ce qu'a dit le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, alors que les Ukrainiens ont accusé la Russie de l'avoir à nouveau bombardée. On fait le point avec Yann Effele et puis je vous demande un point sur la situation.
Elle est une cible depuis les premières semaines de l'invasion russe. La centrale de Zaporijjia est tout sauf épargnée par les bombardements. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique alerte.
La situation se dégrade encore et on ne peut pas se permettre le luxe d'attendre à quelque chose de regrettable, de catastrophique arrive. Nous avons les moyens de l'éviter.
En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, Emmanuel Macron tenait une réunion sur la sécurité nucléaire. Toute la journée, le directeur de l'AIEA a tenté de trouver un accord pour mettre en place la zone de protection qu'il réclame depuis des mois. Sans succès, encore une fois.
Démilitariser, c'est un but, évidemment, atteignable. Mais pour l'instant, l'ordre du jour, c'est protéger, parce qu'on est sous le feu.
L'Ukraine accuse une nouvelle fois la Russie d'avoir bombardé le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Depuis le mois de mars, elle est passée sous le contrôle de Moscou. À New York, les Occidentaux dénoncent la militarisation du lieu, une menace, selon eux, pour la sécurité nucléaire.
Général Bruno Clermont, est-ce qu'il y a un risque sur cette centrale nucléaire ukrainienne ? La plus grande d'Europe.
Il y a un risque majeur. C'est une centrale qui est stratégique pour les Russes, puisqu'ils l'ont prise dans les premiers jours de la guerre, sans beaucoup de combats d'ailleurs, et parce qu'elle doit alimenter le Donbass et la Crimée. Et il se trouve que malheureusement, elle se trouve sur la ligne de front. Donc supposons que les Ukrainiens prennent la centrale de Zaporijjia, c'est exactement comme l'incendie, le fait d'avoir coulé le croiseur Moskva. Hein. Mm-hmm. C'est une défaite majeure pour la Russie. C'est un symbole. En fait, c'est le symbole de la volonté du Donbass, en tout cas de la partie que la Russie veut annexer, d'être indépendante et autonome. Donc, elle est sur la ligne de front. Étant sur la ligne de front, elle est à proximité des combats. Les Russes s'en servent. Évidemment, pour stocker du matériel militaire, c'est très grand. Ça doit faire 2 km sur 2 ou 3 km sur 3. C'est la plus grande d'Europe. Il y a des zones de stockage possibles. Et les combats se produisent à proximité. Et vous savez, il y a deux types d'obus. Hein. Il y a ceux qui sont précis et puis il y a ceux qui ne sont pas précis. Et du côté des deux côtés, il y a des obus qui ne sont pas tous très précis. Donc, elle est sur la ligne de front. Donc, la solution, c'est de la démilitariser, évidemment. C'est-à-dire faire un cordon de sécurité à une espèce d'un tiers parti qui serait, elle, indépendante, ce qu'évidemment, Poutine ne voudra pas. Je pense que Poutine utilise également l'aspect nucléaire de la centrale de Zaporijjia pour mettre de la pression psychologique sur l'opinion publique.
Sergueï Jernov.
Tout à fait. En fait, cette centrale a été prise en otage.
Ça arrive pour la première fois. En fait, on imaginait des scénarios des terroristes qui s'empareraient d'une centrale nucléaire. On n'a jamais envisagé un scénario d'une armée régulière d'un pays qui s'emparerait d'une centrale nucléaire pour faire chanter le monde entier. Mais le problème, c'est que les Russes ne s'arrêtent pas seulement à Zaporijia. Je vous rappelle que la centrale de Tchernobyl a été aussi prise en otage au début, mais là, ils sont en fait tombés dans quelque chose d'abominable pour eux, parce qu'ils ont commencé à faire des tranchées sur un territoire qui est hautement contaminé. Et donc, quand ils ont commencé à tomber malades, ils ont rapatrié tout le personnel, ils ont quitté la centrale de Tchernobyl. Mais il y a deux jours, selon les Ukrainiens, les Russes ont bombardé aussi une autre centrale qui est entre Mykolaïv et Kryvyi Rih, qui est la centrale de Yuzhno-Ukrainskaya. Et ils ont bombardé à 300 mètres du réacteur de l'autre centrale. Donc, systématiquement, ils utilisent ça. Et imaginez, il y a autre chose, je suis d'accord avec vous, actuellement, et cette centrale est sur la ligne de front. Mais imaginez, par exemple, que les Ukrainiens font sur cette ligne de front ce qu'ils ont fait à Kharkiv. Ça veut dire qu'en fait, ils récupèrent les territoires, mais ils seront obligés de laisser cette centrale derrière eux, avec les 500 hommes en munitions, et avec la possibilité de faire sauter cette centrale. Donc, c'est vraiment un problème majeur.
C'est le nouveau point de crispation de cette guerre. Mm-hmm. C'est l'avenir de cette centrale.
Mais il va falloir trouver des solutions assez rapidement parce que sinon la situation peut dégénérer.
En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que l'AIEA a été autorisée à inspecter la centrale. Mm-hmm. D'un point de vue de fonctionnement de la centrale, elle n'a pas vu de dysfonctionnement majeur. C'est vraiment la présence des combats à proximité qui met en danger la sécurité de la centrale. Mm-hmm. Hein, ce n'est pas le fonctionnement de la centrale en tant que telle.
J'aimerais qu'on écoute encore un extrait de ce que nous disait Henri Guénaud ce matin. Il estime que personne ne cherche réellement en fait, à sortir de la crise, ce qui est très grave parce qu'au fond, il n'y a pas de pourparlers, il n'y a pas de négociations qui sont engagées. On écoute Henri Guénaud.
Ça devient très très dangereux et donc il faut modérer, il faut se modérer et chercher une voie. Pour l'instant, personne, et c'est le moment, c'est vrai, le plus difficile, le plus dangereux, personne ne cherche une voie de sortie.
Ni Emmanuel Macron, ni Joe Biden,
personne,
évidemment.
Personne. Jusqu'au boutisme nous conduit des deux côtés. Et en plus, il se répond, si vous voulez, jusqu'au boutisme de l'un justifie jusqu'au boutisme de l'autre. Il nous conduit en terrain connu, parce que jusqu'au boutisme, c'est très bien, mais jusqu'où?
Vous n'êtes pas d'accord, Sergueï Chernov?
Je ne suis pas très d'accord parce que ce n'est pas parce qu'on ne raconte rien qu'on ne cherche rien. Mm-hmm. Vous savez, la vraie diplomatie, elle n'est pas publique. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous avez eu actuellement l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans les couloirs des Nations Unies, il y a toujours des pourparlers qui ont lieu. Mm-hmm. Il y a autre chose aussi. C'est que les Ukrainiens, actuellement, le président Zelensky ne peut pas annoncer les moindres pourparlers avec les Russes parce que ce sera inacceptable pour le peuple. Mmh. Aller raconter aux gens qui ont subi Boutcha et Mariupol qui vont chercher l'accord. Parce que Zelensky, en 2019, quand il était élu, il était élu sur la promesse de cet accord avec les Russes. Mmh. Maintenant, politiquement, il ne peut pas.
D'autant qu'il est dans une phase victorieuse.
Poutine veut les pourparlers. Et la preuve, peut-être, cet échange avec les militaires, c'est peut-être la preuve que Poutine, à la limite, il serait ouvert. Mais il ne peut pas non plus l'annoncer, puisqu'il a fait une mobilisation, et puis il a ce camp de ultranationalistes dans son dos qui, lui aussi, le pousse.
L'oblige.
Et donc, c'est très difficile. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de pourparlers.
D'accord. Un dernier mot, général Clermont?
Non, je pense que malgré tout, lorsqu'on écoute la dernière interview du président Macron, c'est le seul qui utilise le terme de paix, qui est très peu utilisé.
Pour parler.
C'est le seul qui fait référence au fait qu'il faut trouver une solution négociée, qui évoque la situation du mois de février comme point de repli. Donc, il y a sa voix n'est pas prépondérante, mais il y a quand même, je suis persuadé, des voix qu'on n'entend pas et qui veulent la paix.
Et qui progressent petit à petit. Merci beaucoup, général Clermont. Nous avons Éric Revel, Éric Nolot. Votre livre, Sergueï Chernov, c'est L'Engrenage aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline. Dans un instant, c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info avec ses invités sur CNews et sur Europe 1, Raphaël Devolvé et Hélène Zélani pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.